Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ce qu'on a compris, je pense aussi beaucoup avec Mona en entreprenant, c'est que en fait, il faut juste vraiment le faire et que je pense pas que les voisins ne sont pas plus intelligents que toi ou moins intelligents que toi, ils l'ont juste fait.
En fait, on a dit d'abord on veut entreprendre et ensuite il y a eu un cheminement pour trouver le concept. Et il y a beaucoup de gens qui disent ouais, j'ai envie d'entreprendre mais j'ai pas d'idée, j'attends la bonne idée, etc. En fait, si t'as vraiment ce truc, cette envie viscérale d'entreprendre, tu commences et en fait l'idée va venir sur le chemin.
Bienvenue sur Build Yourself, le podcast des entrepreneurs qui ont décidé de devenir acteurs de leur vie. Je m'appelle Safia Gourari, je suis ravie de vous proposer cette conversation avec Daphné et Mona, fondatrices de la marque d'upcycling, Resap. À la fin de cet épisode, vous en saurez plus sur leur parcours et vous serez motivés à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Bonne écoute!
Salut Daphné!
Hello!
Salut Mona!
Coucou!
Comment allez-vous?
Ça va?
Bah écoute, super, ouais. Tout va bien.
Bah merci d'avoir accepté mon invitation, en tout cas. Moi, je vous ai découverte dans qui va être mon associé sur M6, même si j'étais déjà tombée sur ton podcast, Mona, une note à moi-même, je pense quelques mois avant, parce que je voulais utiliser ce nom.
Ça, c'est trop podcast. Marrant quand même.
Et j'étais tombée sur ton podcast et je me suis dit, mince, il est déjà pris, dommage. Et voilà, tant pis.
C'est moi.
Ouais, et après, j'ai fait le lien entre Resap et vous deux. Et je me suis dit, ok, c'est trop cool. Alors moi, je vous avoue, alors je sais que c'était pas ta pièce préférée, mais le jean, là,
oui.
Avec la petite ouverture sur les côtés, quand j'ai vu le jean à l'émission, j'ai dit, je regarde le site internet. Bon, entre-temps, j'ai pas agi assez vite et il y en a plus, mais pour le coup, ça a été le coup de cœur. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais regarder un peu plus ce que vous faites, etc. Est-ce que vous voulez bien me parler de la genèse de votre entreprise et comment vous avez eu l'idée de lancer ça?
Yes, bah du coup, Daphné et moi, on s'est rencontrés en école d'ingénieur. Et puis, on avait très envie d'entreprendre, on avait très envie de faire un projet avec du sens. Enfin, très souvent, déjà, à l'école, on parlait voilà, de faire quelque chose qui changerait le monde. En fait, on avait cette ambition d'avoir de l'impact autour de nous. Mais voilà, on se disait plus tard, on fera ça plus tard, etc. Donc, on a commencé à travailler. Donc, Daphné a commencé à travailler à la banque. Et moi, j'ai commencé à travailler dans le milieu du luxe. Et en fait, après quelques mois d'expérience, on s'est toutes les deux rendu compte que c'était pas forcément ce qui nous faisait rêver, cette idée de carrière en grand groupe qui nous avait fait rêver quand on était rentré en école d'ingénieur. En fait, quand on est sorti de cette école, on n'avait plus tous les mêmes ambitions, plus tous les mêmes rêves. Et donc, il y a un petit moment de réadaptation et de se dire, en fait, ouais, nos rêves, ils ont changé. Là, on arrive dans cette idée de grand building, de grand groupe, etc. Et en fait, un peu désillusion. Et du coup, on a commencé à se re-questionner. Et on a eu la chance d'être dans le même état d'esprit toutes les deux à ce moment-là. Et donc, on a commencé à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment toucher les gens et avoir un impact direct sur leur vie. Et pour nous, le milieu de la mode, c'était un moyen de toucher les nouvelles générations, les jeunes générations, et leur faire passer des messages au-delà vraiment de juste vendre un vêtement. C'était avoir une voix dans la société, faire passer des messages autour du sens, de l'écologie, de l'éthique, mais aussi de croire en ses rêves, du dépassement de soi. Et voilà, c'est plus l'état d'esprit dans lequel on était quand on a lancé Resap.
Ouais. C'était vraiment, je pense que dans nos quotidiens avant, on ne sentait pas qu'on avait un véritable impact sur le monde qui nous entourait. Et nous, on voulait vraiment avoir cet impact-là. Et il passait forcément, en tout cas pour nous à l'époque, par lancer notre propre entreprise, notre propre business, créer nos propres processus, etc. Donc c'est un peu pour ça, beaucoup, qu'on s'est lancé avec Mona.
Et c'est quoi votre rapport à la mode ? Est-ce que vous êtes fan de mode ? Ou est-ce que c'est un moyen pour vous d'exprimer vos valeurs ?
Pour moi, je vais parler pour moi, pour le coup, moi, je ne suis pas une grande fanatique de mode. C'était vraiment un moyen de vraiment faire transmettre des messages et vraiment taper, entre guillemets, sur plusieurs enjeux, type les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux, humains, etc. Le secteur de la mode, c'est un secteur où, en travaillant dessus, on peut vraiment améliorer tout ce champ-là. Et donc pour moi, c'est vraiment ce qui m'a poussée, en tout cas, à me lancer dans l'industrie de la mode.
Et de mon côté, j'avais une vraie appétence pour la mode. Je travaillais chez Louis Vuitton avant et c'était d'ailleurs mon job de rêve. Et j'ai toujours voulu travailler dans la mode, dans tout ce qui était luxe. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler là-bas, je me suis aussi rendu compte du désastre que c'était d'un point de vue écologique, parce que tu te rends compte que... Il y a beaucoup, beaucoup de matières qui sont gaspillées, qu'il y a beaucoup de prototypes qui finissent à la poubelle, qu'en tout cas, il y a énormément qui est jeté, qui n'est pas réutilisé. Tu te dis, c'est hyper dommage, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matières que tu pourrais utiliser, tu pourrais refaire des trucs de ouf, et même il y a plein de gens qui aimeraient l'avoir au lieu de le mettre à la poubelle. Et deuxième truc, c'est que je me suis rendu compte aussi de l'aspect humain. Je me suis rendu compte à quel point l'être humain n'était pas au centre du système, n'était pas au centre de l'entreprise. Et alors que moi, j'avais ce rêve d'être quand même reconnue, d'avoir une cohésion de groupe, d'avoir du respect du manager, etc. Il y avait ce truc où c'était d'abord le projet, d'abord le profit, d'abord la croissance avant l'être humain. Et du coup aussi, en montant notre boîte, je pense qu'on a aussi voulu inverser la tendance et remettre ça au cœur du système, quoi.
Ouais, ce que j'entends au final, c'est que certes, c'est une belle entreprise et une belle initiative, mais c'est surtout vos valeurs et une mission de vie qui vous ont poussé à lancer Rissa, pour le coup.
Ouais, complètement.
Par quoi vous avez commencé quand vous avez décidé de laisser un impact dans ce monde en créant votre entreprise et en faisant passer un certain message? Ça a été quoi les premières actions que vous avez mises en place?
En fait, tout s'est fait quand même petit à petit, dans le sens où au début, avec Mona, on avait déjà un projet avant, plus ou moins, autour de la seconde main.
Donc, tout ça.
Ouais, tout ça. Ouais. Ouais.
J'ai fait des petites recherches.
Ouais, tout ça. Ah, un peu tout ça. Mais en fait, quand on était à l'école, déjà, on commençait déjà beaucoup à se renseigner et à grandir sur améliorer nos connaissances autour de l'industrie de la mode. Donc, sur le vêtement, comment il est fait, par qui, etc. Et de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de vêtements présents, fabriqués, qui parfois n'étaient pas utilisés, ou s'ils étaient utilisés, on les utilisait une fois et puis on les jetait. Et donc vraiment, il y a des stocks énormes de vêtements. Et du coup, on s'est dit, nous, on va pas partir, on va vraiment pas faire produire de la matière, on va utiliser ce qui existe déjà. Donc c'était un peu sur ça, déjà sur tout ça, ça tournait déjà autour de la seconde main. Et ensuite, on a continué, on a un peu laissé tout ça de côté, et on a vraiment avancé sur le sujet RISAP en gardant un peu cette même ligne directrice qui est de partir de la seconde main. Donc au début, on s'était dit, il y a beaucoup de vêtements, on va juste les réparer, et on va faire la boucle, et puis on va les remettre, leur donner une nouvelle vie, une nouvelle impulsion, et les remettre sur le marché. On a acheté un site internet d'abord. On a acheté le site internet en se disant ça nous oblige vraiment vraiment faire le projet, etc. Donc on a acheté le site internet, on n'avait pas de produit. Et ensuite, on a été confinés. Et là, on a lancé le compte Instagram. Et sur Instagram, on a commencé vraiment par parler de ce qui nous animait, nos valeurs. Parce qu'en soi, on n'avait pas les compétences techniques de réparation du vêtement, etc. Mais ce qu'on avait, c'était une conviction. Et cette conviction-là, c'est qu'il y a trop de vêtements, on consomme très mal la mode, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble ? Et on a commencé un peu comme ça, à discuter avec la communauté, à avoir des débats tout au long du confinement. Et après, il y a eu les challenges upcycling.
La toute première étape concrète qu'on a faite pour être visible, ça a été le compte Instagram. Et c'est comme ça qu'on a commencé à exister en fait vis-à-vis du monde et à parler avec des gens, et on avait vraiment aussi cette envie de comprendre quel était le vrai besoin, quel était le vrai pain point pour qu'on puisse créer une solution qui serve et qui soit utile.
Oui, en fait, vous avez pu faire un vrai travail de recherche et d'études de marché, finalement, avant même de commencer à commercialiser quoi que ce soit.
C'est ça.
Est-ce que vous aviez déjà des connaissances, en marketing, en communication, etc. ou est-ce que vous avez appris au fur et à mesure ?
Concrètement, on a appris au fur et à mesure. Après, on a une formation d'ingénieur généraliste qu'on a complétée par un master spé, moi en administration des entreprises et Mona en entrepreneuriat. Donc, on avait des notions vues en cours. Mais après, très concrètement, tout ça prend sur le terrain.
Ouais, concrètement, franchement, il n'y a pas photo. Je pense que tu apprends sur le terrain, quoi. Tu as beau avoir des notions de marketing, de vente, etc. Tant que tu ne l'as pas fait concrètement avec une idée... Et d'autant plus quand c'est ton idée, ton bébé. Je pense vraiment que t'apprends en faisant. Et aujourd'hui, on apprend encore énormément, tu vois, sur le marketing. Je pense que t'apprends tout le temps. C'est tellement un truc énorme et vaste que...
T'es obligé de te confronter, en fait, à ton marché, à tes clients, à ta cible, à tes prospects, etc. T'es obligé de confronter toute ton idéation, toutes tes idées à la réalité du monde. Et ça, vraiment, il n'y a aucun livre au monde, je pense, qui pourra te décrire exactement tous les scénarios, comment ça va se passer, parce que ton idée, elle est comme ci, elle est comme ça. Non, ça ne marchera pas. Tu es obligé de sortir de ta chambre, sortir de chez toi et dire, regardez, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, tu vas savoir direct si ça plaît, si ça ne plaît pas. Et là, pas besoin de faire 10 ans d'études de marketing, quoi.
Je pense que ça va rassurer les gens qui procrastinent un peu, ouais. Qui se disent oui, je suis passé ceci, j'ai passé de connaissances en cela. En fait, vous venez de leur dire que non.
Faut juste faire.
Ouais.
Faut y aller, faut faire. Et après, un autre truc qui nous a beaucoup aidé quand on a lancé Rixab, c'est qu'on a beaucoup appris via les podcasts, via des vidéos YouTube, via beaucoup de ressources qui étaient à l'extérieur de nos études, qui nous a permis de plus apprendre le concret, quoi. Par exemple, le fait de parler vraiment à ses clients, le fait de vraiment avoir, de comprendre le pain point, de comprendre le retour client, ça a été un truc que je pense qu'on a plus appris dans des ressources externes qu'à l'école.
Bah, en faisant, hein, vraiment, en plus. Hein.
Je le ressens aussi de mon côté avec ma propre activité, c'est la même chose. Hein. J'ai appris des trucs en cours, mais c'est en faisant que je me suis rendu compte que ça suffisait pas, pour le coup.
Et même au-delà des compétences techniques qu'on a apprises pour entreprendre, il y a aussi toute la partie éveil de nos consciences sur certains sujets. Typiquement, moi, c'est pas à l'école que j'ai appris que acheter en fast fashion, c'était destructeur. Vraiment, c'est en regardant des documentaires, en regardant des interviews, en écoutant des podcasts, vraiment en allant vraiment chercher l'information. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a toute l'information qui est disponible. Il y a tout et n'importe quoi. Certes, il faut trier. C'est vrai, il faut trier, mais il y a tout qui est disponible. Donc, on a les moyens de s'éduquer, on a les moyens de faire tout plein de choses avec ce qu'on a en ressources aujourd'hui. Il faut juste aller les chercher.
Ouais, je suis d'accord. Mais il n'y a pas de secret. Hein. Faut faire, faut passer à l'action, comme tu le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, qui fait quoi entre vous deux ? Comment vous êtes répartis finalement les différents pôles peut-être de votre entreprise ?
Alors, du coup, avec Mona, c'est assez vite réparti les différents pôles. Moi, je vais être sur toute la partie, on va dire, aval du produit. Donc, toute la partie commerciale, logistique, service, donc les partenariats, le B2B, etc. avec les entreprises. Et Mona va être sur toute la partie amont, on va dire. Donc, c'est vraiment être la production, la direction artistique, le recrutement et la communication. J'ai rien oublié.
C'est ça.
Ok, je trouve que vous êtes bien complémentaires pour le coup et c'est vraiment une force. Parlez-moi un peu des challenges RISAP, parce qu'en quelque sorte, c'est un peu avec ça que vous avez lancé votre entreprise. C'était quoi l'idée derrière et comment vous êtes venu avec ce concept qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui, encore en 2023, puisque je vous ai vu faire un live là-dessus il y a quelques semaines.
Ouais, bah, y a beaucoup, beaucoup de challenges. Déjà dans le concept de l'upcycling même, on n'a pas choisi le sujet le plus simple, on va dire. Parce que c'est tout un truc où il faut encore qu'on aille trouver la solution. Il y a beaucoup de recherches à faire, de vraiment comment trouver un modèle où tu arrives à transformer un vêtement de seconde main et en faire un nouveau vêtement avec un coût qui soit OK pour ne pas vendre à un prix totalement déconnant. Nous, on a aussi à cœur de faire une marque de vêtements qui soit entre guillemets, abordable, enfin qui ne soit pas, pas des vêtements à 1000 euros, 2000 euros. Comme des concurrents nous peuvent le faire. Nous, vraiment, l'idée, c'est que ce soit accessible à un beaucoup plus grand nombre de personnes. Mais aujourd'hui, il y a cette réalité de produire pour arriver à ces prix de vente. On n'a pas encore trouvé la solution. Tu vois, c'est encore hyper compliqué parce qu'il y a énormément d'étapes. En fait, tu trouves ton vêtement de seconde main, c'est hyper compliqué à trouver en soi, tu le payes, tu dois le ramener, tu dois le laver, tu dois le remettre à plat, donc tu dois tout découdre, c'est hyper long, tu dois le retravailler, en plus à la direction derrière pour trouver les modèles. Après, il faut le distribuer, il y a des coûts de distribution. Enfin, la chaîne est hyper compliquée. Donc déjà, on s'est attaqué à un sujet qui est monstre. Et ensuite, parce que en fait, le marché, c'est un marché encore de niche. Et donc, il y a l'autre chose qui est très compliquée, c'est qu'il faut faire évoluer les mentalités. Donc, il y a tout un travail d'éducation, il y a tout un travail de... On transforme le marché, mais on doit emmener les clients avec nous. Et donc, il faut leur expliquer pourquoi... ça coûte ce prix-là, comment nous on fait et pourquoi en fait on doit tous changer de mindset sur le prix des vêtements.
Ouais. Et surtout qu'en plus avec notre produit, il y a une idée préconçue que ça ne doit pas coûter cher parce que c'est de la seconde main. Ouais. Donc du coup il y a un véritable travail d'éducation et on doit tout remettre en ordre et tout bien à sa place. Donc ça coûte ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ci. Mais ouais. Mais je pense que Safia a parlé des challenges upcycling resup.
Non mais c'est intéressant aussi.
Quand j'ai commencé, je me suis dit ce que j'avais compris la question.
Et donc du coup, je me suis dit, moi, c'est quoi mais de toute façon, fallait que ça sorte. Ça fait longtemps que le sujet du challenge du monde d'upcycling.
Non mais de toute façon, c'était dans mes questions d'après. Donc okay. C'est bien qu'on l'ait abordé en soi.
Ouais. Mais. Ouais, mais du coup, on a commencé sur Instagram, comme ce que disait Mona tout à l'heure, et le moment où donc on discutait avec tout le monde, etc. Mais le moment qui a vraiment montré Resup et mis en lumière Resup, c'est vraiment les challenges upcycling où nous, en fait, tout simplement, on s'est dit qu'on est coincé chez nous, c'est le confinement, on a plein de vêtements dans nos placards qu'on n'utilise pas. Bah venez, on prend un de ces vêtements, on fait une photo avant, on le transforme via la couture, on fait une photo après, et puis on les met en compétition en story. Et ce qu'on a fait donc le premier confinement, je crois que c'était peut-être début avril ou fin mars, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Et donc du coup, on avait d'ailleurs sur le compte Instagram, on n'avait personne au début. On n'avait même pas parlé du compte Instagram à nos familles, à nos amis. On faisait ça en sous-marin vraiment totalement. Et il y avait peut-être 300 followers au début, quelque chose comme ça. Et on a eu une cinquantaine de participations.
Ah oui, c'est pas mal.
Mais c'était énorme. Beaucoup, en fait. Mais c'était énormissime. Nous, on était comme des folles. C'était énorme. On était là, waouh, attends, mais pourquoi il y a autant de personnes qui veulent faire ce truc-là et tout. Et puis, du coup, on a fait cette petite compétition. Et puis, on a vu qu'il y avait un truc sur l'upcycling. Et donc, pendant le confinement, on a fait plein de rencontres sur Instagram, dont une personne qui nous a proposé de venir faire un pop-up dans sa boutique. Et du coup, en sortie de confinement, on est venu présenter des pièces dans sa boutique.
C'est trop bien. Vous avez fait des bonnes rencontres au bon moment. Vous avez eu des bons coups de pouce.
Et le challenge de upcycling, il a aussi bien marché. Et d'ailleurs, ça continue pour, je pense, trois choses. La première, c'est qu'on a réussi à créer une communauté qui est ultra qualifiée. Vis-à-vis de notre secteur d'activité, donc autour de la seconde main, du DIY, de l'upcycling, de la mode engagée. Ensuite, il y avait un vrai besoin, une vraie envie de toutes ces personnes qui faisaient de la couture dans leur chambre aux quatre coins de la France, de communiquer avec l'extérieur, de se regrouper, d'appartenir à un groupe, qu'ils étaient très seuls. Et je pense que la troisième chose, c'est que voilà, on était en plein confinement et
on avait besoin de s'occuper à ce moment-là.
D'activité quoi.
Il y a des gens qui faisaient du pain, il y en a d'autres qui créaient des vêtements.
C'est ça. Et en fait, en faisant le challenge upcycling, on a un peu pour la première fois hacké Instagram parce que en fait, on a fait venir du coup tout le monde repartageait en story, et faisait voter sa communauté, donc tout le monde disait venez voter sur le compte de Resup, venez voter sur le compte de Resup. Donc on a eu d'un coup un gros coup d'audience. Et du coup, le reach s'est emballé et ça a mis notre compte en haut. Et du coup,
vous l'aviez même pas fait exprès.
On a hacké l'algo d'Instagram.
on a hacké l'algo. Et ça fait qu'on a très vite passé cette barre des 1000 abonnés. Qui fait que quand tu as 1000 abonnés, après ça va plus vite et c'est plus simple. Tu as une communauté pour rebondir, etc. Et du coup, on a réussi à faire grandir la communauté très rapidement. Et ça a toujours été notre plus grande force chez Resup, c'est d'avoir des gens qui nous suivent et qui nous soutiennent dans tout ce qu'on lance. Quoi.
Ouais, je pense que c'est l'avenir, pour le coup, de toute entreprise. S'il n'y a pas de communauté derrière et s'il n'y a pas l'humain, je suis persuadée que les entreprises vont avoir du mal à perdurer sans communauté, sans audience.
Ouais, je suis d'accord.
totalement d'accord.
Et quand vous avez eu cet accès à un pop-up à la sortie de confinement, vous aviez déjà des vêtements, des produits ?
Bah du coup, comme au tout début, on était parti sur le fait de vendre des pièces réparées, on avait un petit stock de pièces qu'on avait plus ou moins réparées. Donc voilà, qu'on avait détachées, on avait recousu des boutons, des choses comme ça. Et avec l'emballement qu'il y a eu avec les challenges upcycling, on a proposé une pièce upcyclée. Donc Mona, elle est venue faire notre pièce iconique de tout début de RISAP. C'était la veste en jean en patch, patchée dans le dos. Et donc Mona a proposé cette pièce-là et quelques autres, je crois. Et en fait, on les a mis au pop-up et c'est les premières pièces. Elles sont parties, mais en 3 minutes, quoi. Vraiment, elles sont parties, mais direct, on faisait des rendez-vous. En plus, on était en mode, comme c'était sorti de confinement, il y avait tout un tas de restrictions, etc. Donc, les gens venaient par rendez-vous de tranches de 30 minutes, des choses comme ça. Et premier rendez-vous, direct, flash, les pièces, elles partent. J'étais là, ah, OK.
Et ça, c'était encore une fois quelque chose de totalement pas prévu.
Non.
Parce que je ne sais pas si tu te rappelles de ce moment-là. J'étais chez moi et j'avais fait cette pièce. Et à l'époque, je ne savais pas coudre. Du coup, on ne dira pas comment j'ai fait cette pièce, mais j'ai fait cette pièce d'une autre manière qu'avec la couture. Et je ne sais pas si tu te rappelles quand tu es arrivée chez moi et que tu as vu la veste. Et tu as dit en mode, mais qu'est-ce que tu as fait là?
Mais moi, je suis une détractrice, tu vas le savoir. Moi, je snipe toutes les idées, vraiment. Dès qu'elle arrive avec une bonne idée, je suis là, oh là là, mais c'est quoi ça encore? Puis après, je suis là, bon, vas-y et tout. Et après, ça cartonne, je suis là, ouais, c'est super. Je t'ai toujours soutenue dans ton projet. J'ai toujours cru.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, quand j'ai fait cette pièce, il y avait, je sais pas pourquoi je l'ai faite. Enfin, si, je l'avais faite parce que c'était une veste en jean que j'avais récupérée chez mes parents. Et en fait, sur la veste, mon frère avait tagué au marqueur un Nike.
Ah ouais.
Mais c'était une veste à lui quand il avait genre 8 ans, tu vois.
Ok.
Et pour faire genre qu'il avait une veste Nike, il avait dessiné un Nike dans le dos de la veste. Et du coup, moi, j'avais récupéré cette veste et je la trouvais cool parce qu'elle m'allait bien et tout.
Ouais.
Et je me suis dit, ouais, j'ai pas
dans la
rue avec un faux Nike, j'avoue. Tu vois. Du coup, je me suis dit, je vais mettre un patch comme ça, ça sera cool, tu vois, on verra pas. Et donc, j'avais fait ça pour ça. Et après, quand Daphné l'a vu, enfin, à ce moment-là, on s'est jamais dit, enfin, quand il y a eu cette rencontre entre la veste, Daphné et moi, on s'est jamais dit, ce truc va être notre avenir, en fait.
Ouais.
Ce truc, ça va être notre futur.
Jamais.
Genre,
jamais.
Et après, on l'a mis en vente et on a découvert qu'il y avait un potentiel quand c'est la première cliente qui est en train de magasin, elle a dit, moi, je veux cette veste-là. On s'est dit, attends, là, il y a un truc à faire. On a recommencé une deuxième fois, une troisième fois. Je crois que ça partait. On dit, OK, il y a un vrai truc à faire. Et après, on a commencé à se dire... Ah, ça s'appelle l'upcycling, tu vois.
Ah oui, ouais.
Genre, en vrai, il y a eu... On a dit, d'abord, on veut entreprendre. Et ensuite, il y a eu un cheminement pour trouver le concept. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, j'ai envie d'entreprendre, mais j'ai pas d'idée, j'attends la bonne idée, etc. En fait, si t'as vraiment ce truc, cette envie viscérale d'entreprendre, tu commences. Et en fait, l'idée va venir sur le chemin.
Est-ce que vous avez été confronté au syndrome de l'imposteur à certains moments ? Est-ce que vous avez eu des phases de doute ? Ouais.
Oh, tout le temps. Mais en fait, moi, c'est périodique, ce truc. C'est,
ouais.
Au tout début, je l'avais énormément. Vraiment, j'étais tout le temps en imposture permanente. Bon, je faisais semblant, mais enfin, je pense qu'il n'y a que ça qui fonctionne avec cette maladie, on va dire. Mais genre, je faisais semblant, mais j'étais tout le temps en imposture parce que je n'étais pas dans un secteur qui était le mien, un secteur où je n'avais pas spécialement d'affinité. En soi, moi, ce qui me drivait vraiment, c'était de me dire que je vais résoudre un problème pour le monde. Tu vois, genre, alors que tu vois, les gens qui sont dans le secteur, c'est des passionnés de la mode, passionnés du vêtement. Et même quand j'ai pu échanger avec des stagiaires ou des personnes qui sont vraiment dans le secteur, tu le sens qu'ils sont vraiment amoureux du vêtement, etc. Et c'est génial de travailler avec eux, d'ailleurs. Mais moi, j'avais pas ce truc-là. Et du coup, j'étais en totale imposture tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Après, ça s'est calmé quand on a commencé à avoir nos premières victoires, les premiers succès. Ça s'est calmé un peu. Et là, dernièrement, je sais pas pourquoi ça repart, mais je pense que c'est à cause de l'émission où je comprends pas... Ouais.
Beaucoup de monde, beaucoup d'œil sur toi, je pense que ça doit...
Et je comprends pas trop, et je suis là, mais bon, c'est vrai, on fait un truc cool, tu vois, mais bon, tu vois, genre, j'ai un peu ce truc qui repart un peu, mais ça va... Je continue à faire semblant que tout va bien.
Tout ça, je pense. Et toi, Mona ?
Bah ouais, je pense qu'on l'a...
T'as ressenti quoi quand la nana, elle est entrée dans la boutique pour la première fois et elle a dit, je veux cette veste ?
Ah, mais je sais pas, j'étais pas là.
Ah, t'étais pas là, c'est dommage. Ah là là.
Bah moi, je peux te dire que ce que j'ai ressenti, parce que j'étais là, finalement, j'étais là. Ah bon ? Parce qu'à cette époque-là, Mona, elle était terminée son stage.
Ah, d'accord, donc,
Je bossais,
ok.
Elle bossait chez Louis Vuitton et moi, je faisais toutes les ventes.
D'accord.
Donc, on était en... en complémentarité. Ouais. Toujours. Et du coup, non, quand la fille elle est rentrée et qu'elle a vu la veste, elle a dit j'adore et tout, machin et tout, moi j'étais ultra surprise et très contente parce que c'était ma première vente. J'avais jamais fait de vente de ma vie. Alors du coup.
En général, on s'en souvient de la première.
J'étais très contente. J'étais ah oui, c'est génial. Et d'ailleurs, cette fille-là, c'était une fille de la communauté avec qui on parle toujours, qui s'appelle Clémence et qui est adorable.
Et Clémence.
Qui veut se lancer. D'ailleurs, si Clémence, t'entends voilà. ça, lance-toi.
Ouais, je pense qu'on a toujours le syndrome de l'imposteur et. Même encore, ouais, enfin tout le temps en fait. Quand les clients achètent et tout, on est en mode ah ouais, genre, tu sais, ils achètent. T'as toujours un petit doute de.
On va quand tu t'es trop comme
ah ouais.
Non, mais je vous comprends. Moi aussi, je l'ai encore. Ça fait tout le temps. Ça fait depuis 2018 que je vends des formations en ligne. Et à chaque fois que quelqu'un achète, je me dis, mais imagine, il aime pas. Imagine, il est dégoûté. Ouais. Et au tout début où je vendais mes offres, en fait, à chaque fois que je recevais un mail dans ma boîte de réception, j'avais peur. J'ai peur que quelqu'un me dise c'est de la merde.
Ouais, mais pareil. Au tout début, mais vraiment pareil. Mais c'était horrible. C'était horrible.
Ah ouais, du coup, j'ouvrais plus ma boîte de réception où j'étais stressée à chaque fois que je l'ouvrais, tu vois. Et après, je voyais que c'était un truc positif.
Ouais.
Et ça me faisait redescendre. Mais j'ai eu longtemps ce truc-là. Quoi.
Ah ouais, pareil. Bah je...
C'est rassurant de voir qu'on est dans la même.
On sait ce que c'est.
Des impostrices. Le club des impostrices,
je te jure.
C'est un super nom de podcast, ça.
Bah, franchement, ouais, bonne idée. Bonne idée. Vous avez bien évolué en termes de produits, parce que vous avez du coup les vêtements qui sont dispo sur votre site. Vous avez la box pour faire de l'upcycling à la maison. Et vous avez également des ateliers que vous faites en présentiel. À quel moment tout ça s'est goupillé? Parce que vous aviez commencé du coup avec ce petit pop-up. Est-ce que c'est la box qui est arrivée? Est-ce que c'est la mise en place du site? Tu vois, même les ateliers en présentiel, je trouve que c'est une trop bonne idée. Et encore une fois, je retrouve ce... Vous le faites sûrement de manière naturelle. Cette volonté de réunir les gens et de comment dire, appuyer sur l'aspect communauté.
Bah ouais, c'est exactement ça. En fait, notre idée de base, c'était vraiment proposer une solution pour tout le monde. On a trouvé une solution, démocratiser cette solution. Et démocratiser la solution, c'était bah, soit on vous fait acheter ce que nous on fait, soit vous faites par vous-même. Et en fait, de fil en aiguille comme ça, la box, elle s'est créée. D'ailleurs, la box, elle s'est créée très, très vite. La box...
Avec Nargis, la première stagiaire.
Ouais, avec Nargis. Donc, c'était août 2020.
Ok, ah oui, juste après donc, le pop-up.
Juste après. C'était vraiment, c'est comment on peut aller plus loin. Parce que là, on fait ça, mais comment on peut aller plus loin? Comment on peut vraiment impliquer tout le monde? Donc, la box, elle est arrivée très, très vite. On l'a lancée novembre 2020, décembre 2020. Elle était déjà en vente. Enfin, vraiment, elle était déjà partie comme ça. Ensuite, sur les ateliers, on avait eu l'idée aussi très, très tôt. On voulait très tôt, faire des ateliers. Mais à l'époque, c'était une ambiance chacun chez soi, masquée. Quoi.
Covid life.
Donc, on a un peu ralenti le truc. Et dès qu'on a été un peu, entre guillemets, libéré du Covid, en tout cas des restrictions, parce que le Covid est toujours là, on a lancé vraiment concrètement les ateliers. Et là, toujours dans la même démarche, la même envie, c'est je préfère t'apprendre à pêcher que de donner du poisson. Quoi.
Il y a vraiment cette envie de transmettre le savoir-faire, du partage. Et aussi l'idée de si t'as pas les moyens d'acheter une sapri-sap, parce que c'est quand même un prix, tu vois, on va pas se mentir, tu peux apprendre à coudre et à faire ça toute seule chez toi. Et en fait, c'est hyper accessible de prendre des sapes qui sont dans ton placard, de les transformer et d'en refaire des trucs cools que tu pourras reporter. Ou même, tu vois, d'aller en fripe, d'acheter des pièces à 2-3 balles et les custom pour en faire des trucs hyper cool. Et en fait, tu peux te faire des pièces uniques qui sont hyper belles. C'est l'idée, c'est de transmettre ce truc et dire, voilà, toi aussi, tu peux le faire. Et c'est accessible à tous. Et on a aussi sorti un livre qui est dans la même optique, dans la même volonté, où là, pour le coup, c'est nos produits à nous, c'est nos produits RISAP qui sont en open source, où on donne les tutos. Donc voilà, si tu veux pas, tu n'as pas les moyens d'acheter une banane RISAP, et ben en fait, tu peux soit acheter la box Do It Yourself, soit acheter notre livre. Et dans les deux, on t'explique comment faire. Et tu peux la reproduire à la maison, tu peux en faire pour toute la famille. Voilà.
L'idée, en fait, chez RISAP, c'est que t'as pas d'excuses. Là, on te met tout, c'est genre... Nous, on a pris la liste des arguments, on a fait « Ok, tiens, on a un produit pour toi, quoi. » T'as pas d'excuses.
J'avoue, c'est vrai. Vous aidez les gens à se débrouiller. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleur... En fait, vous servez tout sur un plateau. Donc au final, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il y a le plus simple pour, entre guillemets, convaincre les gens que votre cause en vaut la peine. Et ce livre, du coup, que t'as mentionné, qui s'appelle « Atelier Upcycling », qui a été paru aux éditions Dessin et Tolera, mais assez récemment, en août 2022. Comment est arrivée cette opportunité?
Et ben, c'est toujours une histoire de rencontre. Donc du coup, je reviens à quand on était dans la petite boutique. Ça s'est super bien passé, notre premier pop-up. Et du coup, la géante de la boutique qui s'appelle Manel, elle nous a proposé de rester l'été dans sa boutique. Donc vendre nos pièces et vendre les pièces de seconde main qu'elle avait. Donc nous, on a pris la gestion de la boutique, comme ça. Comme une opportunité, comme si on maîtrisait... comme si c'était, oui, bien sûr, on va faire ça. On n'avait aucune idée de comment gérer une boutique, mais on l'a fait. Et donc, du coup, pendant cet été-là, il y avait pas mal de clients qui passaient, du coup, et nous, on discutait avec eux, etc. Et typiquement, il y a une cliente qui est venue, qui nous a découvert, qui a acheté une pièce et qui a parlé de cette pièce-là à sa mère, qui était une éditrice de chez Larousse Pratique.
Bah, la directrice éditoriale de Larousse.
Ouais.
Ah oui, d'accord, c'était quelqu'un, quoi.
Ouais. Et du coup, elle a adoré, vraiment, c'est via sa fille qui a adoré sa pièce, le concept, qui en a parlé à sa mère, qui a beaucoup aimé aussi, qu'on a rencontré, Nathalie, si je ne me trompe pas, de son prénom. Et on a discuté, on s'est super bien entendu, et puis voilà, est-ce que ça vous tente de faire un livre? Bien sûr, non, déjà, mais non.
Donc... En même temps, c'est une belle opportunité, hein.
Donc, ouais, voilà.
C'est super.
Ouais.
Le livre, il est disponible dans toutes les FNAC, dans plein, ouais, dans tous les Cultura, les bibliothèques de quartier et tout. Donc, c'est une super visibilité. Et puis, c'est une manière... tu vois, c'est un autre canal de communication et d'acquisition.
Ouais, ouais, clairement. Et ce que je remarque dans votre parcours, au final, c'est qu'il y a eu beaucoup de connexions à l'humain, ouais. En vrai. Est-ce que vous faites aussi naturellement sur Internet, par le réseautage sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Est-ce que ça vous a permis aussi de connecter avec des gens, d'apprendre, de créer des relations avec des personnes qui ont pu vous donner des coups de pouce, etc., etc.
Alors moi, t'as dit LinkedIn, du coup, mon cerveau s'est débranché.
C'est pas ton truc. Je vois que Mouna est active dessus, toi, non?
T'as dit LinkedIn, je me suis dit, ah ouais, non, c'est pas pour moi, c'est pas une question pour moi, super,
merci. Donc j'ai dit Instagram derrière, parce que je sais aussi qu'Instagram a un très très fort potentiel.
Mais oui, sinon on a fait beaucoup beaucoup de rencontres via les réseaux, et d'ailleurs c'est ça qui nous a permis de vraiment évoluer. Comme je te disais au début, la boutique c'est via Instagram. Un de nos associés qui nous suit depuis le début, qui est un expert de la filière de recyclage et du textile, qui s'appelle Atem, on l'a rencontré aussi sur Instagram. La collab avec Lévis, les filles de Lévis sont venues via Instagram, donc on a découvert tout le concept sur Instagram. La plupart de nos collabs et la plupart des choses qu'on a fait et construit avec des personnes, c'est via des rencontres qu'on a fait sur les réseaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, du coup, nous, ça a vraiment été un catalyseur pour le projet, toute la dimension réseaux sociaux. Ouais. Réseaux sociaux, pardon.
Vous étiez même aux Galeries Lafayette avant de passer à la télé, on est d'accord ?
Oui, on était aux Galeries Lafayette avant de passer à la télé. En fait, les galeries, d'ailleurs, ça arrivait aussi hyper, hyper vite. Si je ne me trompe pas, c'était 2021. On a été contacté début 2021 par une acheteuse parce qu'ils avaient un nouveau projet au sein des galeries qui était de mettre en avant des marques éthiques, des marques responsables et de la seconde main. Et donc du coup, c'était le projet qui s'appelle le Restore, qui est au troisième étage des galeries Haussmann. L'acheteuse nous a contacté pour nos box. Et donc du coup, nous, on a dit « ouais, c'est génial et tout, les galeries, folie ». D'ailleurs, encore une fois, on a dit « oui », mais nous, on ne savait pas comment ça fonctionnait, tout ce chantier-là aussi.
Je vois la tête de Mouna, je suis en mode…
Parce que j'ai un flash et je me rappelle du premier call Galerie Lafayette. Dans le… Le premier call qu'on a fait Galerie Lafayette, c'était dans un tout petit espace, tu vois. Genre, il y avait les toilettes qui étaient là. Daphné, elle avait pris le seul angle de la pièce où il y avait… un petit peu d'espace, et elle faisait call alors que, en fait, c'était dans la boutique. C'est dans l'arrière-boutique où on vendait des pièces. On a fait le premier call Galerie Lafayette alors qu'il y avait un bordel monstre à côté, avec les clients, avec nous à côté, nanana. Et Daphné qui vendait la box, etc. Il disait, ouais, la box, ça va être trop bien, nanana. Mais vraiment, quand tu repenses à ça, on était vraiment chez père de... À quel point on savait pas comment ça fonctionnait, et à quel point on a...
Vous êtes des meufs normales, en fait, c'est rassurant, tu vois.
On a foncé dans le truc sans vraiment... Aujourd'hui, c'est lunaire, la scène, tu vois, la scène qui... du coup, le Galerie Lafayette...
Ce qu'on a compris, je pense, aussi beaucoup avec Mouna en entreprenant, c'est que, en fait, il faut juste vraiment le faire, et que je pense pas que les voisins ne sont pas plus intelligents que toi ou moins intelligents que toi, ils l'ont juste fait.
Et donc, typiquement, nous, quand on a un call d'une acheteuse des galeries qui nous appelle, on toujours le mode imposteur, etc. Mais après, c'est une opportunité à saisir, donc il faut sortir de ça et y aller, quoi. Et donc, nous, on y est allé avec les notions, tu tapes sur Internet, prix d'achat, prix machin. Enfin, vraiment, tu tapes sur Internet comment ça fonctionne, il y a tout, ça te montre le schéma, tu t'assimiles le schéma, tu fais ton call, ça se passe bien, ça se passe pas bien, bah tant pis, t'as pris un truc et ça se passe bien, tant mieux, ça continue. Typiquement, ce qui s'est passé pour nous avec les galeries. Et donc, ils étaient venus d'ailleurs que pour les box à l'époque. Et nous, on a vraiment poussé nos produits, les pièces. Et en fait, au début, ils n'avaient pas de visibilité sur les pièces. Et du coup, nous, on a vraiment poussé des pièces. Et en fait, les pièces sont venues après les box. C'est ça, la vraie histoire des galeries.
Ouais, c'est ce que j'allais vous demander, à quel moment sont arrivés les vêtements sur le site, etc. Puisque bah, vous avez dû travailler avec des gens dont c'est le métier de confectionner. Je ne sais même pas si c'est le mot confectionner, mais des vêtements. C'est arrivé à quel moment? Genre mi-2021?
2021, ouais. Début 2021.
Ok.
C'est arrivé et en fait, c'est entre guillemets grâce au Galeries Lafayette qu'on a créé un premier catalogue où on a réussi à standardiser l'upcycling. Donc en créant des modèles, on s'est dit ok, on va créer des modèles où on va proposer du 34 au 44 parce que eux, ils sont obligés, tu vois, d'avoir une offre avec plusieurs tailles, avec des modèles, etc. Et donc c'est comme ça qu'on est parti dans le délire. On va créer un catalogue produit, on va produire plusieurs pièces du même modèle, etc. Et donc, on a travaillé là-dessus pendant à peu près 6 mois. En fait, en janvier 2021, on était en contact avec les galeries. Et on a travaillé pendant 6 mois sur ça à fond pour que, tu vois, en septembre, on soit sur le floor des Galeries Lafayette.
Avec combien de pièces en septembre?
Je crois une cinquantaine.
Ah oui, quand même.
En modèle ou en nombre de pièces?
Nombre de pièces, ouais.
En nombre de pièces, ouais, il y en avait une cinquantaine.
Ok, c'est pas mal, hein.
Et pour nous, c'était déjà un truc fou, tu vois. Et puis surtout, un truc fou parce que, tu vois, on va créer 50 pièces. En soi, on vient pas du métier vraiment de la production mode. Donc, on a vraiment tout débroussaillé et fait au feeling, enfin fait, tu vois, de manière hyper instinctive. Et je pense qu'on a tout fait de manière hyper instinctive dans RISAP. Et ça nous a beaucoup aidé. Et c'est vrai ce que tu as dit, Daphné, qu'en fait, quand tu rentres dans le milieu d'entrepreneuriat, avant d'y rentrer, tu as un vrai mythe de l'entrepreneuriat en mode ce ne sont que des génies qui créent des boîtes, etc. Ouais. Et quand...
La plupart ne savent pas ce qu'ils font.
Quand tu rentres, en fait, tu te dis ok, en fait, je ne vais pas dire la vérité parce que ça doit être un secret entre entrepreneurs. Mais...
Garde mon secret. Non, je pense qu'il y a des vrais génies, mais que la plupart, c'est de la débrouillardise. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait se débrouiller. Voilà. Et nous, je pense que sur ça, on a une bonne note. Sur le reste, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a su se débrouiller avec les moyens du bord. Un truc qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que nous, on n'a pas non plus injecté des 1 000 euros, enfin plein d'argent dans le projet. On a vraiment mis de quoi acheter, enfin déposer notre marque à l'INPI, acheter un site internet. Et le reste, c'est l'autofinancement de nos activités au quotidien, quoi.
Mais je pense que ouais, c'est un point important parce qu'il y a plein de gens aussi. Ouais. Enfin, en fait, on a un peu l'image de l'entrepreneur. C'est un mec qui a fait HEC, qui vient d'une certaine famille, etc., etc., d'un certain milieu. Il y en a énormément, énormément. Mais il y a aussi des gens plus normaux.
Les outsiders. Voilà,
qui viennent de milieux. En fait, la majorité est silencieuse. Hein, commence aussi à se rendre plus visible là-dessus et à se dire j'y vais. Et je trouve que vous êtes un bon exemple de je suis déter, j'y vais, je sais pas c'est encore clair. Où je vais, mais j'y vais.
C'est clair, c'est clair. Et attends, le truc que je voulais dire, la petite anecdote sur les Galeries Lafayette, moi ce qui me faisait vraiment rire, entre guillemets, c'est que je me disais, moi je suis pas une cliente des galeries. Ouais. Typiquement, je suis pas une cliente des galeries, ça, c'est très luxe, c'est très haut niveau, etc. Et moi ce qui me faisait rire dans ma tête, bon rire c'est un grand mot, mais je me disais, moi je vais pas acheter là-bas, mais j'ai mes pièces qui sont là-bas. Tu vois, ça, c'était fou pour moi. Je me disais, c'est une belle fou, fierté. Quoi. Ouais. Mais ça, si on me l'avait dit un jour, bah franchement, je me dis arrête. Arrête de déconner, quoi.
Et aussi, je pense que, David, toi, tu t'en rendais pas compte parce que justement, tu t'en foutais un peu des galeries et que tu...
dis pas ça.
Non, mais c'était pas dans...
Faut reformuler.
Pas du tout prêt. Je veux dire, t'y allais pas, quoi. Et parce que tu n'es pas du milieu de la mode, mais du coup, moi, pour venir du milieu de la mode, je savais qu'avoir sa marque aux Galeries Lafayette, c'était un truc de fou. Et que, genre, il y avait des marques et des créateurs, ils attendaient depuis 10 ans, 15 ans pour entrer aux galeries et qu'ils envoyaient des mails tous les mois pour avoir une place et tout.
J'ai pas cette émotion.
Et donc, nous, ça faisait 6 mois qu'on... qu'on avait lancé la marque, on venait pas du milieu et on a une proposition pour rentrer galerie. C'est même pas nous qui sommes allés les chercher, ils sont venus à nous. Mmh. Et donc, en vrai, c'est clairement fou et c'est clairement une opportunité de dingue. Et ça nous a vraiment réconforté dans l'idée qu'il y avait un truc à faire et que le milieu de la mode est en train d'évoluer, tu vois.
C'est clair. Et on a eu des super interlocuteurs. Vraiment, ça, enfin, à chaque fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les rencontres, etc., c'est le plus important, c'est clé. Et je peux te dire qu'à chaque fois qu'on a travaillé sur des projets un peu comme ça, grands, entre guillemets, tous nos interlocuteurs étaient géniaux, hyper engagés, ils croyaient à fond, que ce soit dans l'upcycling, mais aussi dans le fait qu'on doit absolument travailler pour rendre la mode beaucoup plus responsable. Et ça, c'est un plaisir de travailler avec des gens avec qui on a des valeurs communes. Vraiment, ça n'a pas de prix. Donc vraiment, c'était top.
Tu rejoins
c'est toujours top. Hein, ouais.
vous avez commencé avec des pièces pour femmes et vous avez lancé récemment des pièces pour hommes. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête depuis le début mais que vous repoussiez un peu, ou est-ce que c'est avec la demande que vous vous êtes dit c'est peut-être intéressant de produire aussi des vêtements pour hommes?
En vrai, on a toujours voulu faire plein de... Enfin, s'il n'y avait que notre volonté, on ferait plein de vêtements pour tout le monde, pour toutes les morphos, tous les genres, etc. C'est juste qu'après, il y a une réalité de temps et de coûts et de... il faut développer l'entreprise, tu vois, et du coup, on s'était concentré et focus sur des produits plus femmes ou entre guillemets non genrés avec des suites classiques, etc. Et après, c'est vrai que plus on avançait, plus on nous faisait la demande à quand des produits pour hommes, les filles venaient avec leurs copains, et je crois, ils disaient ah, moi aussi, j'aimerais bien avoir une pièce, etc. Et donc, quand il y a eu l'émission, on s'est dit, bon, c'est une opportunité, en tout cas, c'est un timing pour sortir une nouvelle offre. Et du coup, on s'est dit, on va en profiter avec l'émission pour sortir la gamme homme. Et voilà, du coup, on a sorti toutes nos pièces. Enfin, on a sorti un peu moins d'une dizaine de pièces en version homme.
Ce qui est déjà pas mal, parce que ça fait quoi, un mois que... que c'est en place. Ouais, c'est pas mal, c'est intéressant en tout cas. Et du coup, comment s'est arrivée cette opportunité de passer dans Qui veut être mon associé? Je vois la tête de Daphné. Les gens ne l'ont pas parce que c'est de l'audio.
Encore une fois, j'ai vu passer le casting. C'était le dernier jour du casting sur les réseaux sociaux. Et je suis arrivée au bureau et je dis à Daph, bah, viens, c'est le dernier jour du casting. On tente notre chance, pourquoi pas. Donc, il n'y avait vraiment rien de préparé. Parce que là, du coup, je dis ça parce qu'il y a plein de gens maintenant qui nous envoient des messages en mode « C'est quoi vos conseils pour le casting ?» etc. Ne demandez pas à nous. nous n'avons absolument aucun conseil.
Du coup, non, mais de conseils game changer, franchement, ouais. On n'en aura pas, quoi.
Ouais. Non, ils nous demandent « Ouais, vous avez pris quel vidéastre ?» etc. Il y a des gens qui mettent des moyens de ouf pour faire la vidéo du casting. on est parti dans un couloir, on a pris l'iPhone et face cam... On est Daphné et Mona, du coup on a monté une marque.
Pourquoi nous ?
Et on a fait une petite vidéo comme ça, vraiment. Moi, bah, s'il y a un conseil, vraiment, c'est rester authentique et montrer pourquoi vous êtes différent des autres, quoi. Et du coup, on a juste fait une petite vidéo de casting qu'on a envoyée. Et on a été rappelé dans les quelques heures qui suivaient, parce que du coup, le profil les intéressait. Ça a été très vite après, du coup, voilà, ils te demandent après de remplir plein de questionnaires, d'envoyer des documents, de leur montrer des produits. Donc ouais, il y a toute cette phase-là. Et après, ça a été plus compliqué parce que ça, c'était en fin juin. Et après, début septembre, il y avait le début des tournages. Donc là, on n'avait plus trop de nouvelles. Et là, c'était un peu l'ascenseur émotionnel parce qu'on a été sortis du casting. On nous a dit oui.
Attends, t'avais pas de nouvelles entre juin et septembre?
Ouais, bah après, ils partent en vacances. Ils partent en vacances d'été.
D'accord, ok.
Et après, quand ils reviennent en début septembre, et ben, ils reprennent direct. C'est direct les tournages plateau. Nanana.
Ah, ok.
Donc, et là, du coup, on a été sortis du casting, remis, oui, non. Et donc là, ça a été pendant une semaine le tourbillon jusqu'à ce que finalement. Un lundi, ils nous appellent, ils nous disent « Ouais, vous êtes sur liste d'attente ». 2 heures après, ils nous rappellent, ils nous disent « Ouais, c'est bon, vous êtes dans le cast, vous passez, etc. » Et du coup, ils nous ont prévenu lundi 14h pour mercredi 8h.
C'est une blague. Comment on se prépare psychologiquement à ce...
Comme d'hab, hein. Je te dis ce que ça vient comme d'hab, on te dit « Bon, bah, on y va
!» Ah, je sais pas si j'aurais assumé, parce que je pense que c'est ma phobie de faire un pitch, déjà. Et si, en plus, t'as genre un jour et demi... Pour te préparer, vous aviez déjà fait cet exercice de base? Genre en école et tout, ou même jamais?
Oui, on avait déjà pitché.
Si, on a déjà pitché, ouais, on a déjà pitché.
C'est différent de... Enfin, ça n'a rien à voir de pitcher devant 15 caméras, 4 investisseurs, et de savoir qu'il y a 2 millions de personnes qui vont regarder ton pitch. C'est pas, c'est pas la même pression.
Parce que ça a duré combien de temps, en vrai? Parce que nous, à la télé, je crois, on a vu 10 minutes.
C'est une heure.
Ah ouais.
T'es une heure avec les investisseurs, t'échanges pendant une heure. Tu pitches, ton pitch dure 10 minutes, je crois, et après, c'est questions-réponses, un échange comme ça. 3 minutes, et ben voilà.
3 minutes, ok. Et donc vous l'avez travaillé à deux et tout, dans l'urgence?
Ouais.
On a notre autre associé Antoine avec qui on a beaucoup travaillé le pitch. Toute l'équipe, après, dès qu'on a eu la nouvelle, hop, on arrive. Ok, en fait. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas prévenu l'équipe parce qu'en fait, il y avait trop de oui, non, oui, non, oui, non. Donc, nous, on ne dit rien. Et en fait, là, du coup, on leur a dit en fait, les gars, mercredi, on passe à la télé. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Ah oui. Et let's go, toute l'équipe en mode. Guerrier, à préparer tous les trucs. Nous, on préparait le pitch, on préparait la scéno, on préparait tout pendant deux jours. Et c'était ultra intense. C'était ultra intense et c'était marrant.
J'ai écouté ton épisode Mona où tu partages les coulisses de l'émission et je me suis dit ça aurait été moi. Sauf que je sais pas si j'aurais eu la façade de me remettre en forme et d'assumer le pitch derrière en ayant limite une crise d'angoisse juste avant, tu vois.
Ouais, bah en fait,
je trouve que t'as été très forte.
Merci. Bah en fait, vraiment, tu te dis il y a pas le choix. Quoi. À un moment, tu te dis, il n'y a pas le choix, il faut monter sur le ring, quoi.
Ah, mais des fois, ta tête, elle te dit des trucs, mais ton corps, il n'est pas d'accord, tu vois.
C'est ce qui m'est arrivé. Du coup, pour mettre dans le contexte, quelques minutes avant le passage, j'ai eu une crise d'angoisse et j'ai tout oublié mon texte. Je n'étais plus en possession de mon corps, etc. Et après, j'ai vraiment accueilli le truc et essayé de l'accepter pour que ça passe le plus vite possible. Et du coup, je me suis dit, ok, accepte, fais passer le truc. Ça va avoir 10 minutes intenses et après ça va passer et tu vas pouvoir passer à autre chose et te remettre en condition en fait. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire, j'ai lâché prise et après heureusement j'avais Daphné à côté qui était solide. Elle est restée solide, aucune trace de stress.
C'est vrai que t'étais particulièrement à l'aise.
Sereine, enfin... Tu vois, moi, j'étais en crise d'angoisse, j'étais en train de gérer le défilé, la répète du défilé, ta-ta-ta-ta-ta et tout. Et après, j'ai repris mes esprits et je me suis vraiment mis dans un... En fait, c'est du mental, quoi. Je me suis mis dans la tête en mode, là, t'es une lionne, là, t'es une warrior, tu vas monter sur le ring, tu vas tout défoncer. Daph et moi, ça fait deux ans qu'on bosse là-dessus, c'est pas pour se planter aujourd'hui. Donc, je me suis dit, on a toutes les ressources, elles sont en nous, faut juste... Et vraiment, je me suis parlé à moi-même en mode... Warrior, et puis on est arrivé sur le truc, et puis ça s'est passé quoi.
Mais moi, je n'ai jamais douté du fait qu'elle allait revenir. Vraiment, sincèrement. Parce que je pense que si j'avais douté, j'aurais commencé à paniquer. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, là, c'est les nerfs qui lâchent, ça va revenir. Enfin, faut la laisser, ça va revenir, tu vois, genre. Et je savais que t'allais revenir. Franchement, j'ai jamais. Mais même pas douter une seule... Enfin, je me suis même pas projetée toute seule devant les investisseurs.
Ouais, heureusement.
Je savais que t'allais revenir, fallait juste un peu de temps, et le temps, tu l'as pris, t'as fait le travail, t'as fait le taf, t'es revenu à fond les ballons.
Ouais, heureusement, et ça... Nickel. Ça aide grave quand tu vois que toi, tu doutes de toi, mais que les personnes autour de toi, elles savent. Bah, tu vois, ça... Tu sais, je vois Daphné, elle panique pas, je me dis, ok, c'est que ça va bien se passer, tu vois.
Vous êtes un bon équilibre, je trouve.
Ouais.
Vous complétez particulièrement bien.
Si tu me vois paniquer un jour où tu paniques, faut paniquer.
Oh encore plus. Mais vous, maintenant, tu sais.
Si tu me vois paniquer ou t'es en train de paniquer, c'est qu'elle a... À un moment, j'ai aucun doute. Vraiment, je...
De nature, t'es pas spécialement stressée ou nerveuse? T'arrives à te contenir?
De nature, je suis pas spécialement stressée, je pense. Mais je stresse pas du tout pour les mêmes trucs. Genre, il y a des trucs où Mona va me dire, mais c'est quoi ton souci? Pourquoi tu stresses pour ce genre de choses? Et moi, je vais paniquer, tu vois, genre, des trucs, mais vraiment débiles, hein, désolé, mais des trucs qui n'ont aucun sens. Et moi, je vais paniquer, mais genre, je suis là, mais oh mon Dieu, comment je vais faire et tout, etc. Mais là, vraiment, passer sur le plateau avec toute l'équipe, moi, il y avait ma mère, mes frères et sœurs derrière, il y avait
ta
toute
mère,
la.
Ta mère, elle t'a vendue, en plus, dès que t'es rentrée, elle a dit, eh, ma fille, elle vend des vêtements, c'est même pas cool.
Oui, ma mère, elle m'a fiché, mais tout le monde me la ressort, celle-là. Bon, je suis là, mais maman, je t'ai emmené pour ça en fait. Tu vois, donc vraiment j'étais je me dis c'était un super, dans ma tête c'était là, Daphné c'est que du bonus vraiment, et dans tous les trucs un peu fous qu'on fait, je me dis à chaque fois, à la base Daphné t'as rien à faire là, donc c'est que du bonus, tu prends, c'est du kiff, etc. Et puis ça passe assez rapidement, mais là vraiment Mona, je me répète hein, mais vraiment j'ai pas douté une seule seconde, je savais que t'allais revenir, je savais qu'on allait cartonner le truc, que ça allait être trop bien et qu'ils investissent ou non. D'ailleurs, c'était que du bonus. Il y avait tout le monde. On a passé une super journée.
Même sans investissement, c'est aussi en termes de visibilité et en plus de toute l'expérience, c'est cool aussi. Hein, puisque plein de gens qui vous découvrent à ce moment-là. Quoi.
Ah ouais, non, vraiment.
Vous avez eu deux associés au final. Vous avez eu, si trois. Je ne me trompe pas, trois.
J'avais compté Delphine et Jean-Pierre Nadir, mais j'en ai oublié
Eric.
Eric aussi, ok. Et du coup, comment ça se passe maintenant le quotidien avec trois nouveaux investisseurs? Est-ce que ça a changé votre façon de travailler? Est-ce qu'il y en a certains qui sont un peu plus présents en termes de conseils que d'autres, etc.?
Vas-y. pas encore, parce que du coup, les démarches sont encore en cours. Donc c'est assez long une levée de fonds d'un point de vue paperasse, papier, etc. Donc pour le moment, on est encore dans les démarches. Donc on ne vit pas encore le quotidien concret avec trois investisseurs. Donc on ne peut pas encore dire. Après, en revanche, on a déjà été en contact avec Jean-Pierre Nadir, avec Eric, qui ont été de très bons conseils et qui, qui nous ont déjà apporté quelques billes, en fait.
Ouais, ok. Ça ressemble à quoi votre quotidien aujourd'hui? Si par exemple vous deviez me donner une journée, je sais pas, allez, pas aujourd'hui parce que du coup je vous ai pris la matinée, mais hier par exemple, pour tu sais qu'on ait une idée de ce sur quoi chacune travaille de son côté. J'ai entendu tout à l'heure par exemple qu'il y avait un shooting photo, du coup j'imagine que c'est pas tous les jours, mais du coup voilà, qu'est-ce que vous faites en gros de vos journées?
Qu'est-ce que tu fais, Daphné?
Bah, c'est une super question. qu'est-ce que je fais? Mais c'est trop... Hier, j'étais en télétravail, du coup. Et quand je suis en télétravail, j'en profite pour organiser ma journée qui correspond le mieux à moi, quoi. Donc moi, je ne suis pas du matin. Bon, sauf que demain...
C'est important.
C'est hyper important. Et je pense que même en termes de gestion d'énergie, c'est beaucoup mieux. Typiquement, moi, je travaille beaucoup mieux le soir, très tard. Le soir. Et je suis pas du tout du matin. Le matin, je galère, c'est horrible. Mais bon, bref, hier, typiquement, je me suis levée tôt parce que j'avais un call, quand même, avec pour négocier des ateliers, des contrats, des choses comme ça. Ensuite, je suis partie sur une présentation pour négocier un nouvel potentiel partenariat. Après, c'est beaucoup d'échanges. En fait, je me rends compte que j'ai pas de journée type. Typiquement, hier, c'était une journée où j'avais beaucoup d'interactions avec l'extérieur. Parce que j'ai eu un call avec une expert comptable. On a eu un call avec les galeries. Un call avec qui d'autre avec des gens, quoi. Ouais. Enfin, vraiment, c'est que des journées. C'est pas passionnant, dit comme ça.
Non, c'est la réalité aussi.
Mais c'est beaucoup d'échanges avec l'extérieur, beaucoup de calls, de présentations, de choses comme ça, négociations. Pour moi, en tout cas.
Ouais. Bah après, c'est vrai que notre quotidien, il change quand même pas mal et que tous les jours, c'est un peu différent. Il y a vraiment les journées où on est à l'atelier et du coup, c'est des journées où on passe avec l'équipe et on va plus gérer toute la partie B2C, tu vois, vraiment le côté marque et tout. Après, on a tout un autre travail où on va être un peu sur le terrain, ouais, sur des shootings, sur des rendez-vous avec des gens. On va faire aussi du média, comme là, etc. Mais pour être plus concrète, moi, hier, par exemple, moi, je passe aussi beaucoup de temps à gérer les réseaux. Donc, par exemple, hier, j'ai peut-être passé 2 heures à répondre à... une centaine de messages qu'il y avait sur Instagram, parce qu'on fait un challenge en ce moment. Donc, il y avait beaucoup de questions sur Instagram et tout. Donc voilà, gérer la communauté, préparer des réels, etc. Et après, réfléchir. On passe aussi en ce moment beaucoup de temps sur la stratégie. Réfléchir à la stratégie, quelle direction on veut prendre. Mais en fait, c'est pareil, c'est en fonction du moment... où on est dans RISAP, les sujets vont être hyper variés. Ouais. Tu vois, en ce moment, on est hyper axé stratégie, mais peut-être que dans 2 mois, on sera hyper axé produit, et dans 2 mois, on sera hyper axé service, enfin vraiment atelier et tout. Ça change vraiment beaucoup.
Il n'y a pas de journée type, en fait. Il n'y a pas de journée type chez RISAP, en fait.
Ouais.
Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui?
On est une petite dizaine.
Ouais. Et d'ailleurs, juste pour rebondir ce que tu as dit, et oui, la personne qui vous répond sur Instagram, c'est Mona. On n'a pas de community manager.
Oui.
Ça doit étonner les gens. Je ne sais pas si tu signes en tant que Mona.
Ça dépend. Mais...
Ouais.
Quand ça m'arrange ou pas. Une fois, je suis genre...
la team.
Je transmettrai...
J'avoue, des fois, je le faisais aussi.
Non, mais oui, on gère tous les réseaux nous-mêmes. Ouais.
Ouais. Est-ce que ça vous a mis une certaine pression de voir les répercussions qu'un passage télé peut avoir, puisque finalement vous êtes beaucoup plus visible, vous avez beaucoup plus d'attention et peut-être aussi de sollicitations. Est-ce que à certains points ça vous a stressé ou pas spécialement?
Non, je pense pas. Non.
Très bien.
Il y a des notions de stress ici qui sont un peu bizarres. Oui. Donc... non, pas plus que ça.
Non, nous on cherche. Enfin, nous on est hyper. Je pense que dans le projet, on est hyper excités par tout ce qui est nouveau, par les nouvelles collabs, les nouveaux partenaires, etc. Justement, je pense qu'on s'ennuie un peu dès qu'il y a trop de routine, dès qu'il n'y a pas de mouvement, on s'ennuie un peu. Et du coup, on aime bien quand il y a de la nouveauté, des nouvelles rencontres, des trucs et tout. Du coup, pour nous, c'est cool, tu vois. C'est en mode trop bien, on va là où on veut aller. Il y a de l'échange, il y a de l'interaction, il y a du mouvement.
On aime beaucoup quand il y a de l'émulation, vraiment. Ouais. Quand l'énergie cinétique est en folie, nous, on est pareil, quoi. On est surexcités. Je supporte... Moi, quand c'est trop plat, genre... c'est hyper dur. C'est vraiment super dur pour moi. Alors que quand on est stressé, c'est le bordel, entre guillemets, c'est la panique, là, je suis à fond, quoi.
Je pense que l'entrepreneur, c'est ça aussi. Genre, l'entrepreneur, pourquoi il entreprend ? Parce qu'il cherche une vie intense, tu vois. Ouais. Il cherche de l'intensité dans son truc. Et du coup, je pense que les entrepreneurs, ils aiment bien ça, l'adrénaline, en fait.
Ouais. Mais en fait, moi, ça m'a rassurée aussi de le voir chez d'autres entrepreneurs, parce que j'étais entourée de gens qui aimaient bien la structure, le calme, etc. Moi, je rayonne dans le chaos. J'ai besoin de chaos, j'ai besoin d'être débordée, de faire, d'être dans le jus aussi, des fois, etc., pour être efficace et pour apprécier le truc, quoi.
Ouais. Mais moi, ce dont je me suis aperçue, c'est que typiquement, quand c'est trop calme et que tout est déjà bien rangé, je m'ennuie et ça me saoule. Et je ne vais rien ranger, d'ailleurs, je ne vais rien faire. Et que quand c'est le chaos, mon esprit se force à tout bien ranger. Et en fait, c'est la dynamique de « là, c'est trop le bordel, il faut vraiment tout remettre en place » qui me motive, en fait.
Ouais.
Alors que quand il ne se passe pas grand-chose, bref.
Bon, en faisant mes recherches sur vous, j'ai vu aussi que vous aviez créé Modash Agency. Est-ce que vous pouvez m'en parler ?
Oui.
Ça aussi, c'est un beau projet.
Et ben, nous, comme on a tout fait au tout début, c'est un truc qu'on avait créé avec Mona au tout début de Rissap aussi. Et en fait, c'est vraiment une agence de formation pour entreprendre. L'idée, c'était, nous, quand on s'est lancé, on n'avait pas, entre guillemets, de mentor ou de formation adéquate, dans le sens où on a appris sur le terrain. Et l'idée, c'était de vraiment partager nos connaissances du terrain aux gens qui veulent apprendre juste derrière nous. Et en leur disant, nous, on est toujours en train d'apprendre. Donc, ce qu'on vous partage, c'est ce qu'on a... Enfin, c'est les expériences qu'on a éprouvées, etc. Donc, prenez ça pour vous, mais nous, on va continuer d'apprendre. Et au fur et à mesure, on va avancer tous ensemble comme ça, quoi. Donc, c'est un projet qu'on a un peu mis de côté, j'avoue, pendant un temps, parce que là, c'était très intense chez Rissap, mais qu'on va reprendre de là... très bientôt.
Et on l'a fait aussi parce qu'on avait beaucoup de demandes. Ouais. Parce que tu vois, il y avait, je pense que il y avait pas beaucoup d'entrepreneurs. Enfin, il y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui ressemblent à Daphné et moi. Et du coup, quand on a commencé à entreprendre, il y a au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui se sont beaucoup identifiés et reconnus en nous et qui voulaient aussi entreprendre et qui disaient mais en fait, j'ai jamais pensais que c'était possible pour moi. Et en fait, quand je vous vois, je me dis, ah ok, peut-être que c'est possible pour moi. Moi aussi, j'ai envie d'entreprendre, mais je n'ai aucune idée de comment faire. Et les formations qui existent, ça ne me parle pas, etc. Mais j'aimerais bien apprendre de vous. Et on a eu beaucoup de demandes de, ouais, enfin, beaucoup de gens qui disaient, ouais, est-ce que vous êtes dispo pour un café, pour un call, si je veux lancer un projet, j'aimerais bien avoir votre retour, etc. Et en fait, même encore aujourd'hui, on en a beaucoup. Il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande. Des jeunes femmes qui veulent entreprendre et qui ne se reconnaissent pas dans ce qui existe déjà. Et je pense que Daphné et moi, on a très envie de faire Modash Agency, en tout cas de faire ce projet de formation, de transmettre ce que nous, on a appris et d'empowerment. Aujourd'hui, on cherche encore le temps et le moyen de le faire, la manière dont on va le faire, mais c'est sûr qu'on le fera un jour.
Très bien, moi je regarderai ça avec attention. Je trouve que c'est effectivement un beau projet qui est hyper complémentaire à votre parcours et qui vient encore une fois remplir un rôle de documenté juste et de transmission, donc je trouve ça super cool pour le coup. Hâte de voir ça.
Merci.
Merci beaucoup pour votre temps et puis d'avoir été si honnête et si ouverte, c'est finalement, et transparente.
Non,
ouais,
non.
C'est passé vite, hein. Et moi, je regardais le compteur, je me disais, ah, ça fait déjà une heure. C'était hyper intéressant, je vous remercie. Je dois vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour votre parcours et la simplicité et le naturel avec lequel vous faites les choses. Ça fait du bien à entendre. Vous voyez, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est assez rare, donc merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci à toi pour l'invitation, on a passé un super moment et merci à toi aussi pour tout ce que tu fais.
Merci beaucoup.
Merci Safia, à très vite.
À très vite.
« Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Build Yourself.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.